Bonjour, je m'appelle Asma Azizi. Je suis étudiante à l'école des hautes études en sciences de l'information et de la communication, CELSA, qui dépend du Paris 4 Sorbonne. Et je vous fais une synthèse de mon mémoire de recherche de cette année, qui porte sur la construction de l'identité des migrants marocains à travers les blogs. Alors pourquoi j'ai étudié le cas des migrants marocains? Premièrement, c'est parce que je suis marocaine et ça m'intéresse. Et deuxièmement, c'est parce que je pense que le paradigme interprétatif de cette étude-là, il sera pertinemment traité, vu que je partage le même passé, la même culture et une même mémoire collective avec ces personnes migrantes. Et du coup, je pense que ça serait plus facile pour moi d'interpréter leur article et de lire aussi entre les lignes. Alors, si j'ai fait un petit schéma, on sait tous que les mobilités et l'immigration ont toujours existé, qui ont poussé des individus à quitter leur pays d'origine vers des pays d'accueil où ils espèrent trouver une meilleure vie ou plus de liberté. Ça dépend de leur motivation. Et l'immigration marocaine, eux aussi ont toujours existé, mais on a trouvé des traces des premiers migrants marocains en France en 1910. Et aussi, dans la Première Guerre mondiale, il y avait des périodes des premiers mouvements d'immigration militarisée. Et selon une étude faite par l'historien marocain Abdelkader Atof, il a parlé du mode de déracinement militarisé parce que les migrants, ils venaient en France, ils restaient tout seuls, ils n'avaient pas de lien avec leur famille qu'ils ont laissée. Et la migration marocaine, elle a connu aussi vraiment son pic à partir des années 60, avec l'institutionnalisation par les autorités françaises de la migration marocaine pour ne pas rester dépendant de la main-d'œuvre algérienne. Et bien sûr, après, il y avait le processus d'immigration choisi, et on sait tous les contraintes qu'il a suscitées en fonction des flux marocains envers la France. Et généralement, on estime le nombre de migrants marocains à l'étranger, soit dans les pays du Golfe, en Europe ou en Amérique, et aussi des migrants marocains qui sont résidents maintenant en Israël. Le total, ça s'est estimé à 4 millions de Marocains. Alors, une deuxième observation, c'est que cet émigré-là qui est... Au début, on parlait de déracinement, comme Abdelmalek Sayad il a écrit dans son livre « La double absence ». Le migrant, il pensait, il avait toujours des pensées envers sa famille, ses amis, ses collègues. Il voulait toujours entretenir et maintenir les liens avec eux. Et maintenant, comme on sait, avec le développement d'Internet, des chaînes de télévision, au début, cassettes, DVD et films, et aussi le téléphone portable, ce migrant-là, il a su maintenir le lien. Il a plus de chances, en fait, de ne pas être déraciné, mais plutôt de continuer d'avoir les liens avec son pays d'origine. Et on peut parler de présence de ce migrant-là dans son pays d'origine, pas une présence physique, mais quand même, il est là. Alors, comme ça, on peut voir que les flux, ils vont plutôt pas pas physique, quoi, du pays d'accueil, du pays d'origine vers le pays d'accueil, mais il y a aussi les liens qui vont du pays d'accueil vers le pays d'origine, mais aussi les liens qui s'entretiennent entre les diasporas. C'est-à-dire les migrants, par exemple, les Marocains qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui sont au Japon, ils se rencontrent soit dans les blogs, soit dans des sites communautaires, ils regardent les mêmes films qui sont téléchargeables sur Internet, ils lisent les mêmes journaux. Et en fait, dans le cadre de cette étude-là, je me suis limitée sur l'étude d'un outil, d'un dispositif du web social, à savoir les blogs. Ici, j'ai fait un petit rappel des différents outils du web social, à savoir les outils communicationnels comme les blogs et les forums, les réseaux sociaux, les écritures collaboratives. Ici, je me suis contentée sur l'étude des blogs. La problématique générale, j'ai pu la formuler dans la question suivante. Dans quelle mesure les blogs des migrants sont-ils révélateurs de leur identité? C'est-à-dire, j'ai essayé de répondre à les deux questions suivantes. Qu'est-ce qu'ils racontent dans leur blog? C'est-à-dire, quels sont les discours qu'ils véhiculent à travers ce dispositif-là? Et quelles sont aussi leurs visées? Après ça, deux hypothèses qui ont été formulées afin de valider cette problématique-là. La première stipule que l'identité des migrants est un construit. L'identité du migrant qu'il a reflété à un instant T, parce que c'est le moment où il rédige dans le blog, c'est-à-dire que ce n'est pas l'identité qu'il porte tout le temps, mais l'identité à un instant donné où il rédige sur son blog est un construit. Qui parle de construit parle qu'on peut le déconstruire afin de déterminer les différents éléments qui le construisent. C'est un construit dynamique C'est-à-dire qu'il y a toujours une actualisation qui est relative soit aux expériences qu'il a vécues dans son pays d'accueil, soit aux lectures qu'il fait. C'est-à-dire l'identité n'est pas figée et elle est hybride. Elle est notamment liée au territoire et nationalité d'origine et aussi à l'image du blogueur, l'image que le blogueur veut se donner à travers son blog. La deuxième hypothèse stipule quant à elle que les éléments faisant partie de ce construit ne sont pas monolithiques, mais sont peureux et perméables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas évoquer un élément de cette identité sans évoquer les autres. En fait, je vais parler parce qu'au début, je ne savais pas vraiment c'est quoi ces composants qui construisent cette identité, mais je vais illustrer par des exemples après. Alors, pour le corpus, le point de départ, c'était un concours marocain qui s'appelle Maroc Blog Awards, qui désigne 13 catégories de blogs marocains, marocains du sol et marocains hors sol, c'est-à-dire marocains qui résident au Maroc et les marocains qui résident dans d'autres pays. Et alors, je suis partie de ces 13 blogs-là, et une opération de crawl, c'est-à-dire qui traite les liens entrants et les liens sortants de chaque blog-là, a été faite. Et finalement, un corpus de 38 blogs de migrants a été repéré. Et vu le temps court que j'avais pour la rédaction du mémoire et le traitement, fallait choisir un autre critère afin d'analyser, de limiter un petit peu mon corpus. Je me suis appuyée sur l'audience des blogs. Avec le logiciel Technocratie, c'est un moteur de recherche de blog et en même temps, il affecte un Technocratie rank au blog. Alors j'ai fait un tableau Excel et j'ai classé les 38 blogs que j'avais selon leur taux d'audience et j'ai pu identifier les trois les plus consultés. Et ce choix-là, en fait, a été confirmé par aussi une fouille dans les sites communautaires. On trouve vraiment que ces blogs-là, ils sont beaucoup cités. Une cartographie aussi avec le logiciel du Navicrawler a été faite et a montré que vraiment ces blogs-là, ils sont les plus consultés. Et là, puisque j'ai étudié le dispositif blog, il fallait étudier en même temps le dispositif informatique, la dimension informatique et en même temps le contenu, parce qu'on ne peut pas séparer les deux, parce que les propos de ces migrants, ils peuvent changer en fonction des dispositifs, et du coup, il fallait voir les contraintes que ce dispositif des blogs a sur les pratiques de ces migrants-là. Alors, dans les blogs, dans les logiciels CMS, c'est-à-dire les logiciels de gestion de management de contenu, j'ai pu repérer deux types de ces outils-là, à savoir des systèmes de management de contenu qui fournissent aux blogueurs des blogs prêts à porter, si j'ose dire, c'est-à-dire que le blogueur peut se les approprier juste en cochant des formulaires, en tapant le nom de son blog, c'est facile. Et des CMS qui plutôt demandent des connaissances informatiques pour les créer. Alors, après une étude topographique et sémiotique de dispositifs blog, j'ai pu repérer deux principaux espaces dans les blogs, à savoir des espaces d'information pratique qui sont plutôt des espaces où on trouve des informations pratiques sur le blogueur, sur le blog aussi, sa date de création, le nombre de commentaires et le nombre de billets qu'il a postés. Et cet espace figure dans toutes les pages du blog. Et un espace consacré aux billets, qui est plutôt l'espace central. Et même dans la dimension topographique, il est l'espace le plus dominant. Quant au contenu, j'ai pu repérer aussi dans ces trois blogs-là que les thèmes les plus fréquemment traités sont des thèmes portant sur la dimension politique et sociale du pays d'origine, aussi l'aspect économique et à la fin des billets portant sur la personnalité du blogueur, son goût, ce qu'il aime lire quant à la lecture, les films qu'il préfère et aussi quelques réflexions. Et finalement, j'ai pu repérer le triptyque suivant, c'est-à-dire que l'exposition de soi dans les blogs, elle est constituée de trois éléments, à savoir l'identité personnelle, c'est-à-dire, comme je viens de dire, tout ce qui est vraiment a un rapport avec les goûts du blogueur, au contenu et même à l'esthétique du blog, parce que s'il choisit la couleur bleue pour le fond de son blog, ça reflète ses choix à lui, c'est-à-dire son identité personnelle. Après son identité et aussi pour l'identité personnelle, tout ce qui a une relation avec les souvenirs, des objets qu'il aime bien, les films, etc. Quant à l'identité nationale, aussi elle était présente dans les blogs des migrants, et elle a trait à tout ce qui concerne le domaine politique, dénonciation de la situation des hôpitaux, par exemple, l'infrastructure au Maroc, aussi des conférences qui peuvent se faire et tout. Et l'identité diasporique, c'est plutôt porte sur les rapports entre les migrants eux-mêmes. Parce que dans les blogs-là, on sent que l'échange et la rencontre entre les migrants, elle dépasse la relation qui est virtuelle, parce que ces migrants, ils se rencontrent en réalité. On voit qu'ils fixent des rendez-vous et après, ils nous font un compte-rendu de leur réunion, de quoi ils ont parlé et tout. Alors, une conclusion quant à le rôle des blogs, je pense qu'il dépasse sa fonction primaire, qui est plutôt une exposition de soi, et il passe vers un espace d'échange entre les migrants, et aussi un espace de partage d'expériences, de discussions. Par exemple, si un migrant il part à la préfecture, il rencontre des problèmes, il peut demander des conseils quant à la communauté marocaine qui consulte son blog. Et aussi des espaces de dénonciation et de négation quant à l'infrastructure au Maroc, par exemple. Et ce sont aussi des espaces de création de liens entre les membres marocains de la diaspora. Et je sais pas, j'ai pas encore vérifié ça, mais je pense que pour les élites, parce que ces blogs-là, normalement, ils sont détenus par une élite, je pense que c'est les blogs, ça substitue les rencontres des migrants qui avant se passaient à travers les cafés, les marchés, mais c'est une hypothèse à vérifier. Et finalement, quelques critiques quant à mon travail de recherche, c'est que j'ai seulement travaillé sur 3 blogs et je pense qu'il est nécessaire de remonter les 35 blogs de migrants que j'ai pu repérer au début afin de valider les résultats obtenus pour voir est-ce qu'ils sont anecdotiques, c'est-à-dire qu'ils sont valables juste pour les 3 blogs, ou bien ils sont généralisables. Et comme une ouverture, les blogs comme des espaces publics de migrants, des espaces privés et publics de migrants. Et voilà, merci.